BFM Radio.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à la suite d'affaires suivantes. Elle est surnommée Madalton, à 77 ans, Marie-Thérèse Garcia passe ses nuits en prison depuis bientôt un an. Elle est soupçonnée du meurtre barbare de Corinne Didio, une jeune femme retrouvée découpée en morceaux dans une valise flottant sur la Seine. Un crime vieux de plus de 35 ans, un cold case qui a connu un rebondissement spectaculaire en janvier 2023. Depuis, Marie-Thérèse Garcia fait donc figure de principale suspecte, mais dans cette affaire, il y a plus de questions que de réponses. Marine Scherrer.
Le 19 juin 1995, Corinne Didio quitte son bureau du site Bouygues de Guyancourt. Cette commerciale de 37 ans salue ses collègues, se dirige vers le parking et monte dans sa Peugeot 205. Mais la mère de famille ne rentrera jamais chez elle. Son corps est retrouvé dans une malle, flottant sur la Seine, sans tête ni main, frappé de 14 coups de couteau. Mais alors qui s'est acharné sur la jeune femme ? Les policiers s'intéressent à Marie-Thérèse Garcia, une amie proche de la victime, son ex-belle-sœur. Son surnom, Madalton, laisse entrevoir la personnalité de cette femme décrite comme autoritaire et déterminée, impliquée dans un braquage au début des années 80, avant d'être blanchie.
Elle a toujours grenouillé dans un milieu de banditisme, ça c'est sûr.
À plusieurs reprises, l'enquête s'oriente vers Marie-Thérèse Garcia et son pavillon des Yvelines. Près de 28 ans, durant lesquels Madalton est entendue sans être inquiétée. Fin mai 2023, rebondissement, plusieurs éléments ressurgissent. À 77 ans, Marie-Thérèse Garcia est mise en examen pour le meurtre de Corinne Didio. Pourquoi s'en serait-elle prise à son amie ? La piste d'une jalousie amoureuse de longue date est évoquée. Marie-Thérèse Garcia est soupçonnée d'avoir agi avec l'ex-compagnon de Corinne Didio. Des accusations qu'elle a toujours niées.
Alors, qui est vraiment Marie-Thérèse Garcia ? Est-elle à l'origine du meurtre de Corinne Didio ? On va se poser toutes ces questions avec Maître Najwa El-Haïté. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes l'avocate de Marie-Thérèse Garcia avec Maître Damien Legrand. Merci d'être là, Jean-Alphonse Richard. Et restez avec nous parce que vous connaissez très bien ce dossier. D'abord, Maître, elle a 77 ans, votre cliente. Il faut dire un modèle. Comment va-t-elle physiquement, moralement, après ces mois de détention ?
Autant vous dire qu'elle ne va pas bien. Moi, je l'ai vue il y a à peu près une semaine. Elle est très affaiblie. Elle a perdu 11 kilos. Elle a entamé une grève de la faim parce qu'elle clame de manière constante et avec force son innocence. Et elle m'a montré d'ailleurs différents ecchymoses sur son corps puisque ma cliente est sujette à des AVC, à une mauvaise coagulation du sang, a des poumons qui fonctionnent très mal. D'ailleurs, elle dort avec un respirateur. Autant vous dire que elle n'est vraiment pas bien et la détention n'est pas faite pour elle au regard de sa vulnérabilité au niveau de son état de santé.
Et c'est tout le combat en urgence, j'ai envie de dire, que vous menez pour qu'elle puisse sortir de cette détention. Pour qu'on comprenne bien, justement, on va reprendre cette histoire avec vous, avec Jean-Alphonse. Revenir au tout début, peut-être, Jean-Alphonse. 19 juin 1915, tout va commencer avec la disparition, et je dis bien disparition, de Corinne Didio, qui est la belle-sœur de Marie-Thérèse Garcia.
Tout à fait, c'est une disparition qui est brutale. Elle est à son travail toute la journée à Guyancourt, elle travaille chez Bouygues, elle se déplace dans une 205, et puis à la fin de son boulot, en fin d'après-midi, elle s'en va, elle salue tout le monde, il n'y a pas d'inquiétude particulière et on ne va pas effectivement la retrouver. Quelques jours plus tard, on va retrouver une malle qui flotte aux Andelys, hein, c'est près de la Normandie, sur la route de la Normandie, dans une boucle de la Seine. Dans cette malle, il y a un corps qui n'a pas de main, qui n'a pas de tête, donc qui est tout à fait non identifiable. Il va falloir attendre encore 2 ans.
2 ans.
97. La PJ de Versailles reprend, comme ça, par hasard, les dossiers des disparus de la région, etc. Et puis, ils vont tomber sur cette histoire de mal. Et ils vont faire le rapprochement avec Corinne Didio. Il va y avoir des expertises ADN qui vont être menées. Et effectivement, on va savoir que c'est le corps de Corinne Didio. Alors, elle a été sauvagement assassinée. On a essayé de vraiment de tout faire pour qu'on ne la reconnaisse pas. Alors par qui, c'est la très bonne question. On sait seulement à cette époque qu'elle n'est pas totalement, elle n'est pas en guerre d'ailleurs contre Marie-Thérèse Garcia, ça n'apparaît pas, même si Marie-Thérèse Garcia va être interrogée.
Bien sûr.
Mais elle est en guerre ouverte avec Antonio Márquez. Antonio Márquez, c'est son ami et c'est le père de son fils. Il y a une guerre dans le couple pour justement la garde du fils. Et donc les policiers vont se poser beaucoup de questions tout de suite sur Márquez. Mais Márquez, il n'est pas là, il est dans la nature.
Et autre point d'interrogation, c'est Marie-Thérèse Garcia qui gardait le fils Romain.
Tout à fait.
Lorsque c'est la disparition
proche.
A lieu.
Oui, c'est une proche. Et puis elle aime beaucoup ce petit garçon. Elle l'a gardé. Et c'est d'ailleurs Corinne qui lui avait confié cet enfant. Elle l'a gardé, donc les policiers vont interroger. À l'époque, qu'est-ce qu'elle répond, Marie-Thérèse Garcia, dans ses premiers interrogatoires? Elle va dire, elle n'allait pas très bien, Corinne, elle était un peu dépressive cet an dernier, donc je ne sais pas où elle est passée. Voilà.
Et ses déclarations se sont retournées contre elle, parce qu'on a dit, pourquoi avoir dit ça? Elle n'était pas si mal, Corinne Didillo, elle avait un fils, elle l'aimait, elle avait une vie, elle avait un travail. Et l'idée a germé que Marie-Thérèse Garcia s'était finalement forgé un alibi en disant que Corinne Didillo était fragile psychologiquement et donc elle s'est suicidée. Je n'y suis pour rien.
Alors, Corinne Didillo, et c'est très juste hein, de le rappeler, avait confié son fils à Marie-Thérèse Garcia. Son fils, je le rappelle, c'est la prunelle de ses yeux. On ne confie pas son fils à une personne qu'on craint. Et autant vous dire que Corinne Didio, la victime, a eu recours à Marie-Thérèse Garcia à deux reprises. En 1987, quand son fils Romain est kidnappé, il se tourne
par son ex-conjoint,
Antonio Márquez. Mais vers qui elle se retourne, Corinne Didio? Elle se retourne vers Marie-Thérèse Garcia en lui disant « Est-ce que tu peux m'aider à le retrouver ?» Et c'est ce que fait Marie-Thérèse
Garcia. Pourquoi Marie-Thérèse Garcia dit Corinne est quelqu'un de fragile, qui potentiellement aurait pu se suicider?
En tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que Corinne Didio avait un certain nombre d'ennemis. Et je peux vous dire que différents protagonistes auraient pu avoir un mobile pour la tuer. Et je pense notamment à certaines personnes.
Hein. Ok, vous parlez de ses fréquentations dans le grand
magazine. Exactement. Donc, au regard du secret de l'instruction, je ne peux pas citer leur nom. Mais en tous les cas, il y avait plusieurs protagonistes qui étaient à même d'avoir un mobile pour l'avoir tué, puisqu'elle les aurait dénoncés auprès de la police. Et à cause de Corinne Didio, la victime, eh bien, ils auraient fini en prison. Donc, autant vous dire que Corinne Didio, elle avait une vulnérabilité par rapport à cela. Okay. Elle était très inquiète par rapport à ce qui pouvait lui arriver au regard de ses dénonciations.
J'entends là votre réponse sur les déclarations de Marie-Thérèse Garcia durant ce premier interrogatoire. Elle va être laissée tranquille, Marie-Thérèse Garcia. L'enquête va plutôt s'enliser. Et puis, il va y avoir un premier rebondissement. Il y en a beaucoup dans cette affaire. Rebondissement le 23 août 2004, Alphonse, quand la fille de Marie-Thérèse Garcia va aller voir les gendarmes et raconter une scène assez folle ou assez éclairante. Chacun aura un avis.
Oui, Nancy, elle se présente aux enquêteurs, à la PJ de Versailles. Elle se présente et elle raconte voilà ce qui s'est passé. J'étais chez ma mère à Saint-Hilarion, c'est le pavillon familial. Je me trouvais en tête-à-tête avec elle dans le salon. Et là, ma mère m'a dit, d'un seul coup, on est venu à parler de Corinne Didillo. Et ma mère m'a dit, tu vois là où tu es assise? Eh bien là, c'est là qu'on a étranglé Corinne. Et crois-moi, ça n'a pas été facile. À partir de là, la mère aurait raconté, ça ce sont les déclarations effectivement de la fille, de Nancy, la mère aurait raconté que le corps aurait été ensuite dépecé.
Avec des complicités.
Avec des complices, avec trois hommes qui auraient participé à ce dépeçage en règle dans le garage de l'habitation, et parmi lesquels Antonio Márquez, l'ancien compagnon de Corinne Didio, donc de la victime. Alors... c'est stupéfiant comme déclaration. Parce que
mais
là, vous avez.
C'est troublant. C'est tout,
non, mais vous avez la clé d'un seul coup.
Est-ce
qu'on a la clé?
C'est la bonne question. Je ne crois pas que ce soit cette vérité-là. Pourquoi? Parce que quand on s'intéresse sérieusement à cette affaire et qu'on connaît le dossier, je suis désolée, vous avez une fille qui, depuis l'âge de 16 ans, haït sa mère. Elle la déteste. Pour des questions de jalousie, pour des questions d'argent. D'ailleurs, je rappelle qu'un des ex-compagnons de ma cliente est sorti avec, avec Nancy. Donc, autant vous dire que c'est un mélange des genres assez... voilà. Vous, c'est, et vérité, c'est la vie privée de Nancy. Je n'y rentrerai pas. Mais...
Non, mais pour vous, c'est juste de la vengeance entre une mère et une fille.
Entre une fille et une mère, plutôt, en tous les cas, il y a une haine qui est perceptible. Une haine, mais... Et c'est ce qui fait aussi, quand on s'intéresse au dossier, qu'il y a énormément d'incohérences dans ce que dit Nancy. Vous savez, Nancy, elle dit « La voiture de la victime se trouve dans le jardin de ma mère. »
Elle n'y est pas.
Mais non. C'est-à-dire que le jardin de notre cliente, Marie-Thérèse Garcia, a été mis sans dessus-dessous. Il n'y a pas de voiture de la victime.
Effectivement, la maison a été fouillée, le fameux pavillon. Les policiers ont cherché et ils n'ont rien trouvé. Il ne se passe rien et on repart quasiment à la case départ. Marie-Thérèse Garcia va être laissée tranquille jusqu'au deuxième rebondissement. Parce que, comme je vous le disais, dans cette affaire, on n'a que des rebondissements.
Il faut suivre.
On est en janvier 2023 et on va revenir à une affaire que vous connaissez. Vous allez voir, il y a une connexion. Vous vous souvenez tous qu'en janvier 2023, on s'est inquiété de la disparition d'un jeune couple, Kevin et Leslie. On en a beaucoup notamment parlé sur cette antenne. Vous les voyez, leur visage doit vous parler. Or, Marie-Thérèse Garcia est la grand-tante de Leslie. Et là, du coup, les policiers, comme ils cherchent Leslie et Kevin, ils vont déployer leurs moyens, des mises en écoute, notamment mise en écoute de Marie-Thérèse Garcia. Et là, Jean-Alphonse, deuxième rebondissement.
Oui, il y a une écoute toute simple. Et Marie-Thérèse Garcia, elle parle de sa petite nièce. Et elle dit, ceux qui ont fait ça, parce qu'à l'époque, personne n'a été arrêté, ceux qui ont fait ça, ils ont qu'à bien se tenir, parce que sinon, moi, je vais les retrouver. Et ils vont finir dans une valise. Ben, ça rappelle quoi? Ça rappelle effectivement la malle dans laquelle a été trouvée Corinne.
C'est très menaçant, non, ce genre de.
C'est menaçant.
Oui, mais je vous laisse terminer et je vais y répondre.
C'est une femme. Elle s'appelle pas Mad Dalton pour rien. Elle a un caractère tempétueux. Elle est toujours dans l'excès, Marie-Thérèse, quand elle parle. Alors, est-ce que c'est une vraie menace?
Alors, c'est que de la gueule ou c'est une réelle menace?
Mais je vais vous dire, Marie-Thérèse Garcia, quand on la connaît. Moi, je l'ai rencontrée à la maison d'arrêt de Versailles et je peux vous dire, oui, c'est une grande gueule. Mais ça est une femme de caractère. Mais ça ne fait pas de vous une criminelle. Je suis désolée. Et je peux vous dire aussi que ce dossier est vide de par les incohérences qui existent. Et puis, quand elle échange, en effet, avec son neveu, suite à la disparition de Leslie, sa nièce, mais elle est dans une colère. Vous perdez un de vos proches.
Et spontanément, vous dites... Moi, je m'en occupe, je les mets dans une valise.
Mais j'ai envie de vous dire qu'elle a baigné dans cette affaire Corinne Didio, psychologiquement parlant. Je vous rappelle également qu'il y a eu deux non-lieux concernant ma cliente dans cette affaire.
Oui, oui.
Deux non-lieux.
Mmh. Il y a eu... une référence psychologique,
mais
parce
bien
que ça
sûr.
Fait partie d'elle.
Et moi, je crois à ça. C'est une référence psychologique où, d'une certaine manière, depuis... 97, elle baigne dans cette atmosphère. D'ailleurs, elle est en détention pour cela, alors que franchement, il n'y a pas de raison.
Alors, ça ajoute deux éléments, pour que vous soyez complète. Et comme ça, on va être complet sur tous les éléments à charge contre votre cliente. C'est un cheveu retrouvé dans la malle de Corinne, et c'est des traces de sang. Parce qu'on va refouiller le pavillon de Saint-Hilarion après cette mise sur écoute de 2023.
Et effectivement, des cheveux, il n'y en a pas un seul, il y en a trois. Et on les attribue effectivement à Marie-Thérèse ou bien à quelqu'un qui est dans la lignée maternelle. Mais en faisant le tri, on s'aperçoit qu'il n'y a que Marie-Thérèse que ses cheveux appartiennent à elle.
Retrouvée dans la malle où
elle est Corinne. Retrouvée dans la malle, elle va dire c'est un ADN de transport, c'est-à-dire que Corinne venant souvent chez elle, elle a pu emporter un de ses cheveux. Ça, c'est l'élément matériel qui pèse lourd dans le dossier. Hein, ces trois cheveux, c'est l'élément ADN qui pèse le plus lourd, qui pèse à mon avis plus lourd que les déclarations qu'elle fait sur la fameuse valise, etc. Donc il y a tout un contexte qui fait qu'aujourd'hui, les enquêteurs se disent, on se rapproche, mais et puis il y a le mobile.
Et le sang, puisque après 2023, les policiers vont retourner avec des moyens technologiques d'aujourd'hui, passer la maison au crible, et on va trouver des traces de sang.
Oui, traces de sang qui n'ont pas de lien avec l'ADN de Corinne Didio. Enfin, à un moment, faut dire les choses aussi. Hein. C'est-à-dire que vous avez ce qu'on appelle le Blue Star Magnum, qui a été utilisé pour retrouver des traces ADN. Donc, il y avait des petites gouttelettes de sang, mais qui n'ont aucun lien, en tous les cas, avec cette technologie qui a prouvé qu'il n'y a aucun lien avec les traces ADN, en tous les cas, de Corinne Didiot. Il n'y a pas de lien. Alors, moi, ça me fait rire quand on parle du mobile.
Juste, Alphonse, qui dit à moi, je vous redonne la parole.
Oui.
Vous voulez réagir.
Mais pourquoi on tue ? C'est le mobile, c'est le plus important dans une enquête. On se pose la question.
Et quid du témoignage de Jean-Jacques Maurice, l'ancien amant de Corinne, qui s'est pendu après la mort de Corinne et qui a laissé des aveux.
Alors, Jean-Jacques Maurice, qui avait pour le coup, c'est pour ça que je parle de différents protagonistes qui pouvaient avoir un mobile.
Ah, lui, il est dedans ?
Ah, mais bien sûr qu'il est dedans. Il est dedans et il fait des aveux. Il sort de prison parce que Jean-Jacques Maurice a été emprisonné, mais à cause de qui ? De la victime Corinne Didiot, qui le dénonce auprès de la police. Ouais. Donc de 81 à 85, il est emprisonné à cause de qui ? De Corinne Didiot.
Donc il aurait un motif de vengeance.
Exactement, il y aurait un motif de vengeance. Et il voue une haine vis-à-vis de Corinne Didiot.
Il y a beaucoup de haine dans ce dossier.
Ah mais je vous confirme, il y a beaucoup de haine. La seule chose que je peux vous dire, c'est que ma cliente Marie-Thérèse Garcia ne voue pas une haine, bien au contraire, à la victime. Et quand je parle du mobile, excusez-moi, je reviens sur le mobile, qui est très important. Alors, l'accusation dit, Marie-Thérèse Garcia aurait pour mobile un adultère qu'aurait eu son ex-compagnon, donc Francisco Marquez, qui aurait eu une aventure avec la victime Corinne Didiot en 1982. Et donc, honnêtement, c'est risible et c'est pas crédible. Et donc, Marie-Thérèse Garcia voudrait une telle. Souhaiterait vraiment se venger
de cet adultère. La vengeance amoureuse d'une femme trompée.
Mais exactement, sauf que. Quand on fouille un peu la vie de Francisco Marquez, c'était un homme à femme.
Oui, alors c'est Marie-Thérèse sa belle-sœur, c'est peut-être différent.
Oui, mais
Jean-Alphonse.
Ça tient pas à la route. Bah,
c'est ce que dit l'accusation. Le crime aurait eu lieu 9 ans après. C'est-à-dire que pendant 9 ans, Marie-Thérèse Garcia aurait ruminé cette espèce de vengeance contre cette femme qui aurait été tuée dans des conditions épouvantables. Hein, il faut bien le dire. Est-ce que ce mobile tient ? L'accusation pense que oui, que effectivement cette femme est capable de tout. C'est Madalton et que elle a pu tuer. Alors Madalton parce que pendant une période de sa vie, elle a eu pas des fréquentations très formidables. Elle a même été inquiétée pour une histoire de hold-up dans une agence bancaire des Yvelines, une agence postale, pardon, des Yvelines. Elle a eu un non-lieu sur cette affaire. Donc son casier n'est pas vierge. Elle a ce caractère dont on vient de parler, caractère explosif. Donc Madalton, parce qu'effectivement, elle se laisse pas marcher sur les pieds.
Pour conclure, votre combat est aujourd'hui qu'elle sorte de cette détention
et de prouver son prouver son innocence et qu'elle sorte de détention. C'est-à-dire que notre cliente, elle a des garanties pour se présenter à la justice. Il y a eu deux non-lieux. Si elle voulait faire pression sur les témoins, ça fait longtemps qu'elle l'aurait fait. Notre cliente, parce que j'ai également mon confrère, maître Damien Legrand, qui travaille à mes côtés dans le cadre de la défense de Marie-Thérèse Garcia, et puis le criminaliste Roger Marc Moreau, qui œuvre aussi à nos côtés pour que la vérité enfin éclate, l'objectif, c'est de prouver son innocence. Et je vous assure que quand on connaît et qu'on est un peu sérieux sur l'analyse de ce dossier, il y a beaucoup de carences et beaucoup, beaucoup de zones d'ombre. Et je terminerai en vous disant que elle a ses petits noms sulfureux, mais on l'appelle aussi Mamie Trésor, parce que Mamie Trésor aime les enfants. Il y a différents parents qui ont confié à notre cliente ses enfants. Et je rappelle, parce que la vérité, on la doit, et c'est pour ça que je reviens au rappel que je vais faire, mais la vérité, on la doit à Corinne Didiot, à sa famille, et je pense qu'on choisit la mauvaise voie, parce que Corinne Didiot avait une confiance absolue en Marie-Thérèse Garcia, et je suis encore redondante.
En Mamie Trésor.
En Mamie Trésor, et elle a confié quand même ce qu'elle a de plus cher à ses yeux, son fils Romain.
Et c'était passionnant de se plonger dans cette affaire qu'on va continuer à suivre. Évidemment, merci maître.
Merci à vous pour votre invitation.
Merci beaucoup, Jean-Alphonse, une nouvelle fois d'avoir été avec nous.